As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this? A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy!
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds!
DirecTV has the most MLB games. Call 1-800-DIRECTV. Claim based on total games carried on sports networks. Sports availability varies by zip code and requires choice package. Terms and restrictions apply.
Bonjour tout le monde, ou aussi bien dire bonsoir tout le monde. Bienvenue au Super Athletic, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athletic.com. En ce dimanche 5 septembre, un long congé, long week-end. Et pour tous ceux qui suivent les activités du Canadien, c'est effectivement une longue fin de semaine. Je suis Marc-Antoine Godin en compagnie de Arpin Vassou. Bonsoir Arpin.
Salut Marc-Antoine, il est genre 8h40, oui. Dimanche soir, le 5 septembre. La fin de semaine de la fête du travail, mais nous, on a fêté ça en travaillant.
On fête notre travail, puis on va le poursuivre en fêtant celui que les Canadiens de Montréal, les Hurricanes de la Caroline et les Coyotes de l'Arizona ont fait au cours des derniers jours. Je pense que c'est un secret pour personne qui va écouter ce podcast-là, qui va être principalement question de l'issue de la... de l'offre hostile soumise par les Hurricanes aux Canadiens concernant Jesperi Kotkaniemi. Écoute, on n'a pas... On l'avait abordé en anglais au début de la semaine. C'est pas exactement une surprise que le Canadien ait décidé de ne pas égaler cette offre-là. Même s'il avait voulu dire, ben nous, on croit en ce joueur-là puis on veut aller de l'avant avec un jeune joueur de centre. Ne serait-ce que l'aspect monétaire pour le Canadien à 6,1 millions, ça plaçait l'équipe dans une position où ça allait tout défaire sa structure salariale. Donc, ça demandait un niveau d'engagement que vraiment on n'avait pas senti de la part du Canadien jusqu'à maintenant à l'endroit de Kotkaniemi. Donc, même s'il y aurait eu tout à fait des justifications pour décider d'égaler l'offre, le résultat de tout ça n'est pas surprenant du tout, là.
Non, c'est pas surprenant, mais je pense que ça mérite des questions, ça mérite des réponses. Écoute, on enregistre ce podcast-là avant la disponibilité de Marc Bergevin qui aura lieu lundi à 13h, suivi tout de suite après par Christian Dvorak. Mais alors, tu sais, d'un sens, on n'a pas eu la version de Marc Bergevin encore et il mérite d'avoir sa propre version des choses. Mais juste en écoutant Jesperi Kotkaniemi dimanche et Don Waddell, le directeur général des Hurricanes, évidemment, en parlant de cette offre et en parlant à quel point les Hurricanes voulaient avoir Kotkaniemi dans leur giron, dans leur écosystème, si tu veux. Don Waddell a dit du premier coup, Nous, on pense qu'Jesperi Kotkaniemi va jouer à l'aile gauche cette année. Et ça reflète bien un peu la différence entre la Caroline et Montréal. Parce qu'imagine, imagine que cette déclaration aurait été faite concernant Jesperi Kotkaniemi à n'importe quel moment de sa carrière. On se rappelle les peu de fois qu'il était déplacé à l'aile gauche.
Ça fait une énorme histoire.
La réaction des partisans était comme, mais non, on peut pas faire ça, c'est un joueur de centre, on va le gâcher, c'est Alex Galchenyuk encore une fois, blablabla. Et en Caroline, c'est pas exactement la même atmosphère, pas le même environnement. Je pense qu'il y a pas grand monde en Caroline en ce moment qui questionne le fait qu'ils vont prendre ce joueur de centre-là puis le mettre à l'aile temporairement pendant une saison, peut-être même deux, en attendant qu'une place se libère au centre de la glace au sein de leur formation, parce qu'en ce moment, il y en a pas. Mais le mettant à l'aile en Caroline assure qu'il va avoir un rôle quand même assez important, sur une ligne quand même assez offensif. Je pense pas qu'ils savent avec qui il va jouer, mais Don Waddell a dit qu'il va jouer avec des bons joueurs. Puis ils vont voir, puis qu'ils pensent qu'il a les habiletés pour le faire. Alors, c'était bien le fun de voir tout ce que les Hurricanes ont fait sur les médias sociaux et tout ça, mais je pense qu'à la base, cette offre, celle-là, oui, il y avait certains éléments de vouloir aller chercher un joueur du Canadien, mais je pense que Jesperi Kotkaniemi, c'est quelqu'un qui les intéressait. Et ça avait l'air de les intéresser un peu plus que ça intéressait les Canadiens de Montréal. Et je me demande, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses du fait que Caroline a montré tellement d'intérêt envers un joueur sur lequel Marc Bergevin avait exprimé autant de doutes il y a à peine un mois ou un peu plus qu'un mois?
Ben écoute, il y a ce qu'on entendait de la part de la Caroline avant même que l'offre hostile soit déposée, c'est que à l'attaque, les Hurricanes cherchaient d'abord et avant tout un marqueur, quelqu'un qui pouvait compléter les jeux. En ce sens-là, quand Don Waddell dit ben, « on a regardé nos options à travers la Ligue nationale puis on a jugé qu'Jesperi Kotkaniemi était notre meilleure option », j'ai de la misère à croire qu'en matière de finisseur, c'était le gars qui répondait le mieux à ce profil-là. Par contre, ce que Don Waddell ne peut pas dire, c'est que après Sébastien Aho, sa ligne de centre est composée d'un joueur, Vincent Trocheck, qui est en dernière année de contrat, qui pourrait peut-être qui pourrait peut-être tester le marché du joueur autonome puis qu'il soit sacrifié au nom, finalement, de l'équilibre économique et l'équilibre salarial des Hurricanes la saison prochaine. Le troisième centre, c'est Jordan Staal, un gars qui c'est leur capitaine, mais il est en perte de vitesse. Fait que tu peux pas aller dire, ben, on sentait qu'on avait besoin de l'aide au centre parce qu'on a un gars qu'on va perdre l'année prochaine, puis l'autre, notre capitaine, il vieillit puis il est moins bon qu'avant. Ils peuvent pas se permettre de dire ça non plus. Mais non, je crois que ultimement, c'est vrai que Kotkaniemi a un excellent tir du poignet, puis même s'il a été encouragé par le Canadien à l'utiliser davantage, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour dégainer plus rapidement, puis bon, l'exploiter davantage. Mais c'est surtout le fait que tu peux l'utiliser à gauche aujourd'hui, puis en temps et lieu, s'il y a un départ du côté de Trocheck, si Staal éventuellement l'année prochaine s'avère rien de mieux qu'un centre de quatrième trio, ben là, tu peux insérer Kotkaniemi sans problème. Parce qu'il y a une décision semblable qui semble avoir été prise du côté de Martin Nekhatch, qui lui était à l'origine un joueur de centre, et eux, il semble que les Hurricanes l'ont converti pour de bon à l'aile. Alors là, s'ils ont fait leur nid avec Nekhatch comme joueur, comme ailier, peut-être que Kotkaniemi et eux autres, ils se le gardent en réserve puis disent, lui, on peut toujours le remettre au centre. Donc, je pense qu'il y a un sens, il y a une stratégie à court terme, une stratégie à plus long terme, mais écoute, je ne doute pas deux secondes que les Hurricanes sont sincères quand ils disent que c'est un joueur qu'ils avaient ciblé, qu'ils voulaient avoir. Tu ne prends pas la peine de soumettre une offre hostile et de donner 6,1 millions à un joueur parce que il est simplement parce que tu veux faire la barbe à une autre équipe et tu veux prendre ta revanche. Cela étant dit, l'aspect revanche, je pense qu'il est plus présent que ce que Don Waddell a bien voulu suggérer dimanche. Je crois que quand il dit non, il n'était pas du tout question de ça.
Ouais, non, absolument. Ça, c'était pas vrai du tout. Puis je pense que la raison que Don Waddell a présenté comme ça, c'est parce que cet aspect de la motivation de son équipe venait pas de lui. On s'entend que Don Waddell, si son patron dit de faire quelque chose, il doit pas mal le faire. Là. Puis c'est clair que Tom Dundon, le propriétaire en Caroline, voulait absolument aller voler un joueur du Canadien en raison de leur offre hostile contre Sebastian Aho, qui était honnêtement le plus grand service qu'une équipe pourrait donner à une autre équipe. Mais c'est ça, c'est un peu... ma question, c'est plutôt le fait que... Tu sais, on a entendu Gasperi Kotkaniemi parler aux médias dimanche. Il a dit, entre autres, que une fois que l'offre hostile est arrivée dans... J'imagine qu'il reçoit ça par courriel, ou je ne sais même pas comment tu livres une offre hostile, mais en tout cas, une fois qu'il l'a vu, sa première réaction, c'est d'être vraiment excité.
Ouais.
Puis il a donné des compliments à son agent pour sa gestion du dossier. Il a dit qu'il n'y avait pas vraiment pour parler de contrat avec le Canadien entre la fin de leur saison en mi-juillet et l'offre hostile en fin du mois d'août. Alors, l'espace de 5-6 semaines à peine. Puis il y avait beaucoup d'actions dans ce temps-là. Il y avait évidemment le repêchage, l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Il y avait des choses à faire, mais ça n'avait pas l'air que le contrat de Gasperi Kotkaniemi était une grande priorité. Peut-être que Marc Bergevin dira différemment. Peut-être que Kotkaniemi n'était pas au courant des pourparlers qui se passaient entre son agent et l'équipe, mais le fait que ce joueur-là a eu l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait en termes de négo, c'est pas vraiment un bon signe. Là. C'est... Tu sais, écoute, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que mais tant mieux, il espérait que Kotkaniemi, il n'allait pas très bien, sa potentiel est limité. C'est un peu... un bust du draft. Là. Il y a beaucoup de monde qui pense déjà ça à l'âge de 21 ans. Alors là, on va voir. On va voir ce qui va se passer parce qu'à mon avis, Gasperi Kotkaniemi a choisi... Gasperi Kotkaniemi s'est dit que ça serait meilleur pour ma carrière à moi que j'aille me développer en Caroline au lieu de rester à Montréal. C'était plus ça qu'une question d'argent. L'argent était là comme une avenue ou une façon de partir de Montréal puis aller ailleurs, non seulement ailleurs, mais quelque part où c'est quelqu'un avec qui il patine à chaque été en Tuvu Teravainen. Il a entendu beaucoup parler de l'organisation, puis je pense qu'il est convaincu que la meilleure chose pour sa carrière, c'est qu'il continue sa progression là-bas, parce qu'honnêtement, les deux dernières années à Montréal, il n'a pas fait beaucoup de progrès, puis ça doit être un peu inquiétant pour lui.
Oui, absolument. Ça, c'est vrai, c'est... Je pense que l'aspect développement est au centre. On va pouvoir en jaser abondamment. Je veux simplement prendre la balle au bon par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'il avait l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de négociation avec les Canadiens. Il ne faut pas oublier que là, les camps d'entraînement ouvrent dans un peu plus de deux semaines. Et tu as encore Elias Pettersson et Quinn Hughes à Vancouver, Brady Tkachuk à Ottawa, Rasmus Dahlin à Buffalo, Kirill Kaprizov au Minnesota, Kyler Yamamoto à Edmonton, Robert Thomas à Saint-Louis, tous ces gars-là, qui sont tous des joueurs qui sont à la recherche de leur deuxième contrat, n'ont pas signé avec leur équipe respective. Donc, c'est pas non plus comme si Kotkaniemi était laissé seul sur son île puis il était boudé par l'organisation. Peut-être qu'il n'était pas au courant de tout ce qui se tramait, sauf que une chose est certaine, c'est que... Visiblement, les équipes ont l'air de placer d'autres pions et attendre la fin pour aller négocier les deuxièmes contrats avec certains joueurs qui, dans certains cas, sont appelés à des morceaux très importants de leur équipe pour les années à venir. Ces autres joueurs-là que j'ai nommés, manifestement, ne feront pas l'objet d'une offre hostile. Ça a été le cas pour Kotkaniemi. Et lui, ben écoute, quand on lui a parlé aujourd'hui, j'ai senti que... c'est un gars qui voyait un monde d'opportunités s'ouvrir devant lui. Tu sais, tu as évoqué brièvement le fait qu'il avait été placé en une ou deux occasions à l'aile. Je pense pas que c'est ça qui l'a dérangé vraiment, mais c'est le fait qu'il a... Je pense qu'il a eu beaucoup de difficultés à recevoir un feedback rassurant de la part de ses deux entraîneurs, à la fois de Claude Julien puis de Dominique Ducharme. De même que de la direction du Canadien, de dire, ben non seulement on croit en ton potentiel, mais on va continuer de t'utiliser de la manière dont on t'utilise là, ça va bien, go for it. Puis là, la trajectoire, on est comme ils disent dans la NASA, we stay the course. On poursuit dans cette voie-là, puis on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Il y avait des hésitations du côté Claude Julien. Ça a bien commencé quand Dominique Ducharme a pris le relais, mais manifestement, sa gestion de Kotkaniemi durant les séries éliminatoires suggère qu'il y avait des hésitations là aussi. Des hésitations, il y en a eu abondamment dans le discours de Marc Bergevin. Fait que lui, il regarde ça et il dit « Bon, OK, là, j'arrive à la fin de mes trois années de contrat à Montréal. Puis est-ce que je suis sur le point vraiment, est-ce que je suis à la veille de devenir le joueur que moi, je pense pouvoir devenir et que le Canadien pensait aussi avoir repêché? » Puis dans les deux cas, je pense que on penche davantage du côté de non. Et quand une équipe comme les Hurricanes qui se présente, qui dit « Nous, on croit en toi. On t'a parlé il y a trois ans. On a peut-être repêché Andrei Svechnikov, mais on avait gardé un excellent souvenir de toi. On a regardé abondamment de vidéos. On sait quels sont tes atouts. Et puis, dans certains propos que les dirigeants des Hurricanes ont tenus à l'endroit de Kotkaniemi, ils identifient des forces qui sont exactement les mêmes forces pour lesquelles le Canadien l'a repêché en 2018. Mm-hmm. Alors là, tout ça mis ensemble, je dis, lui probablement qu'il se dit, ben, me retrouver, c'est tôt dans ma carrière, puis je vais peut-être avoir l'air du gars cocky qui cherche le gros argent tout de suite, mais c'est probablement une opportunité immédiatement de bénéficier d'un nouveau tremplin, un nouveau départ, puis de donner vraiment l'élan à sa carrière dont il a besoin. Mais, je vais te laisser la parole là-dessus, Le développement, c'est toujours une question, une responsabilité partagée. L'organisation a ses torts là-dedans, mais le joueur aussi a ses responsabilités.
Oui, absolument. À 100%, le joueur a ses responsabilités. Puis effectivement, je suis sûr que... Bien, on a déjà entendu Bergevin dire ça. Il se sentait agacé, serait le bon mot, là, quand il était demandé de ça pendant la saison, à un moment donné.
Il trouvait qu'on utilisait le mot développement de façon cheap. C'est ça qu'il
y avait. De façon cheap. Ouais, le mot était cheap, c'est ça. Mais à un moment donné, quand ton bilan devient, quand c'est un joueur après l'autre, après un autre, après un autre, où ça fonctionne juste pas à Montréal. Et son argument était que c'est pas comme si on avait tout un paquet de joueurs qui partaient d'ici, puis après il trouvait son éclosion, il était capable de s'épanouir ailleurs. Là, si c'était le cas, je dirais qu'on a un problème.
Ouais.
Moi, je dirais que, tu sais, depuis l'offre hostile à Kotkaniemi, j'ai pensé beaucoup au cas d'Alex Galchenyuk parce que je pense qu'il fait référence à ça. Tu sais, parce que le fait qu'Alex Galchenyuk a quitté Montréal puis aller d'équipe en équipe en équipe en équipe sans trop être, sans trop être capable de s'établir nulle part, tu sais, même à Toronto a vraiment fait un gros effort pour travailler avec lui. Tout le monde était très impressionné avec son éthique de travail. Tu sais, Alex Galchenyuk, c'était tout le temps un gars qui voulait réussir très fort. Tu sais, il voulait réussir. C'était jamais une question qui était pas sur la glace. Il était le premier sur la glace à chaque jour. Très similaire à Kotkaniemi en passant. Tu sais, mais aujourd'hui, on fait tout un plat parce que Alexander Komanov, il attend à la porte pour que Zamboni finisse pour qu'il puisse aller sur la glace. Mais Galchenyuk était très similaire. Et quand j'y pense, c'est vrai que Galchenyuk a quitté Montréal puis a pas fait grand-chose. Mais peut-être le fait d'entamer sa carrière à Montréal pendant des années de développement qui sont quand même assez importantes, puis le fait qu'il se trouvait dans cet environnement-là, peut-être que ça fait en sorte que même en quittant Montréal, il n'a jamais été capable de trouver cet élan-là que tu as besoin pendant tes trois premières années dans la Ligue nationale. Là. C'est une hypothèse que je fais. Je ne dis pas que c'est nécessairement que c'est vrai, mais je pense que le fait que Jesperi Kotkaniemi quitte pour la Caroline, il était tellement, je ne veux pas dire heureux, mais il semblait un peu soulagé, disons. C'était quelque chose qu'il cherchait. C'est pas quelque chose... On parle tout le temps du fait qu'on ne voit jamais des offres hostiles dans la Ligue nationale de hockey, mais je pense que on en voit plus qu'on sait parce que on sait seulement les offres hostiles qui sont signées. Mais je dois croire qu'il y a des joueurs. Tu sais, je pense à Braden Point l'année qui était. Qui était en fait, c'était la même année que Sébastien Aho a eu l'offre hostile du Canadien. je peux pas croire qu'il n'y a pas une équipe qui, à quelque part qui a fait une offre hostile à Braden Point. Et Braden Point a dit, hey, attends une seconde, je suis à Tampa Bay, on a une excellente équipe, on a une chance de remporter la Coupe Stanley, j'aime la ville, j'aime mes coéquipiers, j'aime tout ça. Je suis sûr que je vais payer un bon salaire des autres. Je ne suis pas intéressé à signer une offre hostile. Je dois croire que ça arrive plus souvent qu'on le sait. Et dans ce cas-là, c'est... Moi, je vois ça comme un problème que Jesperi Kotkaniemi a vu une opportunité de non seulement quitter Montréal, mais aller à un endroit où il connaît du monde, il connaissait un peu sur l'organisation, il voyait une chance d'avoir ce succès-là avec cette organisation-là en ayant des opportunités de jouer, en ayant des opportunités de faire des erreurs, en ayant une opportunité de développer pour vrai. Et il l'a pris. Et il a pas, ça n'avait pas l'air d'être un dilemme pour lui. Là. C'est pas comme s'il a dit « Ah, wow, c'était tellement c'était une décision très difficile. » Il n'a pas dit ça. Pas du tout. Il a dit qu'il était super excité. Il l'a signé plus ou moins tout de suite. puis that's it. Tu sais, c'est quand même
mais alors... qu'est-ce qui fait... Comment se fait-il qu'un joueur qui est repêché troisième au repêchage, en si peu de temps, en viennent à vouloir quitter l'équipe qui l'a repêché. Tu sais, c'est pas long, 3 ans. Là. Puis c'est 3 ans dans la Ligue nationale et ils lui ont fait une place tout de suite. Fait ouais. que ça m'apparaît un peu inquiétant. Puis, écoute, peut-être que c'est un cas isolé. Peut-être que sa façon de penser, peut-être que son souhait de dire, ben là, je suis mieux ailleurs qu'à Montréal, il est peut-être un cas isolé là-dedans. Sauf que ce serait, quand on regarde le succès mitigé que le Canadien a eu au repêchage, particulièrement en première ronde, des fois, c'est des gars qui se sont mal développés. D'autres fois, c'est des gars qui étaient simplement qui ont été repêchés à un rang qui ne le justifiait pas. D'autres ont été juste échangés. Mais ce serait inquiétant que cette réflexion-là, d'autres, à sa suite, la fassent. Fait qu'il y a peut-être un examen de conscience à faire du côté du Canadien.
Là. Oui. Absolument. Et c'est ça, c'est un peu ça le point, là, c'est que tu veux pas que Nick Suzuki entame la prochaine saison en sachant que non seulement l'organisation, mais tous les partisans du Canadien, tout le monde, en fait, s'attend de lui qu'il soit le premier joueur de centre. Il n'y a personne pour le contester. Même si Kotkaniemi était encore là, il serait pas en position de contester la position de Nick Suzuki sur l'équipe. Tu sais, je me demande qu'est-ce qui va arriver si ça commence à aller mal pour Nick Suzuki. Tu sais, je l'espère pas pour lui, ni pour l'équipe, mais c'est une possibilité. Il y a seulement 22 ans, ça arrive que des jeunes joueurs connaissent des baisses de régime, qui connaissent des départs lents dans une saison. C'est pas des choses qui sont sans précédent, là. Alors, qu'est-ce qui se passe si ça arrive puis que les choses commencent à tourner en vinaigre autour de lui? Les médias à chaque jour, pourquoi ça marche pas, pourquoi t'as pas marqué depuis 10 matchs, blablabla, etc. Tu sais.
Ou même Alexander Romanov, tu sais, qui a pratiquement pas joué des séries éliminatoires. Qu'est-ce qui arrive s'il entame sa deuxième saison, puis encore l'organisation marche sur des œufs, puis ben là, c'est un joueur à risque, etc. Puis, tu sais, c'est un dilemme du même ordre, là, même si c'est catégorie de joueur.
Mais on sait pas. Ouais, c'est ça. Puis on ne sait pas si ça va arriver. La question qu'on se pose, c'est que si ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, parce que dans le fond, toutes les choses qui sont passées depuis les 2 dernières années avec Kotkaniemi, non seulement avec... Et ce n'est pas simplement une question d'être scratch dans les séries, là, d'être mis de côté pendant les séries ou pendant la finale. Je suis certain que Kotkaniemi n'a pas aimé ça, mais ça a commencé... Bien avant ça, là, c'est tout ce qui s'est passé depuis la fin de sa saison recrue jusqu'au moment où il a signé l'offre hostile de la Caroline. Il y a eu, tu sais, on aime se dire des hauts et des bas, mais il n'y a pas eu des hauts, il n'y en a pas eu beaucoup là, pour Jesperi Kotkaniemi depuis pendant ce temps-là. Les hauts étaient surtout pendant les premiers 60 matchs de sa saison recrue. Et le camp d'entraînement avant ça. Et depuis ce temps-là, je dirais qu'il y avait beaucoup plus de bas que de haut. pour Code Kilimi pendant son temps à Montréal. Alors, c'est juste c'est une question qui me pose, que je me pose parce que le Canadien espère intégrer beaucoup de jeunes au cours des 4-5 prochaines années. Là. C'est avec toute la pépinière d'espoir qu'ils ont. Ils espèrent qu'il y en a comme 2 ou 3 qui sortent de là puis qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale de hockey minimum. Alors, la question se pose pas concernant Jesperi Kotkaniemi, ça se pose concernant Suzuki, Caulfield, Romanov et toutes les autres qui pourraient peut-être se ferait un chemin jusqu'à la Ligue nationale. Là, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un cas isolé? Tu sais, t'as mentionné que c'est fort possible que c'est un cas isolé. Puis honnêtement, je l'espère pour les Canadiens parce que si ça ne l'est pas, c'est... Mais même... Si moi, j'étais à la place du Canadien, je verrais ce que Kotkaniemi a dit dimanche. Puis je commencerais à me demander des questions. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour que un jeune joueur sort pas comme ça puis parle comme ça de nous? Tu sais, quand toi t'as demandé à Jesperi Kotkaniemi s'il y avait un sentiment qu'il y avait un manque de confiance de la part de l'équipe, là, t'as vu à quel point il était mal à l'aise, là. Il était pas, tu sais, il veut pas mentir, mais il veut pas blaster l'équipe non plus en sortant. Alors, il savait pas quoi faire. Alors, sa seule instinct, c'était de juste tourner ça vers le positif puis dire, ben oui, peut-être, ou whatever, tu sais, il n'a pas trop répondu aux questions, mais il a dit, mais une chose est certaine, le Caroline, tout de suite, m'a montré beaucoup de confiance. Alors, ça répondait quand même à ta question que ça veut dire que l'inverse était vrai avec Montréal. Alors, je pense que ça vaudrait la peine de faire un petit bilan de leur propre stratégie et philosophie de développement et comment ils gèrent ces joueurs-là au niveau de la Ligue nationale et voir s'il y a quelque chose qui peut peut-être améliorer parce que tu veux pas que ça devienne un pattern. Tu veux que ça soit un cas isolé, mais il y a des actes, il y a une action à faire pour s'assurer que le cas de Jesperi Kotkaniemi soit effectivement isolé puis que ça se propage pas avec les autres jeunes joueurs de l'organisation qui cherchent un voie de départ aussi vite que possible.
Tu sais, on le sait que c'est difficile à Montréal. Hein? C'est on prend notre hockey au sérieux, on est passionné, etc. Puis il y a énormément d'attention autour de cette équipe-là. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. Cela étant dit, tu parlais d'Alex Galchenyuk tout à l'heure. Lui, là, il changeait de bobette puis ça faisait des nouvelles. Il y avait des histoires de souffleuses à 4 heures du matin, des potins à son sujet. Et ça, c'est évidemment des trucs, beaucoup de trucs sur la glace aussi. Mais il y avait énormément de drama autour de ce jeune-là. Kotkaniemi n'a pas été géré de la même manière. C'était beaucoup plus... heureusement, c'était moins...
C'était plus calme.
Ouais. Mais il y avait quand même énormément d'attention. Puis, tu sais, les gens qui sont agacés par la couverture médiatique, l'expression favorite, c'est-à-dire pendant qu'on parle du quatrième trio, les gens parlent du quatrième trio du Canadien comme si c'était bien important. Puis écoute, toi puis moi, on en a écrit des articles sur le quatrième trio du Canadien, c'est correct. Mais on est extrêmement investi là-dedans. Puis là, la question que je me pose, c'est que tu te rappelles quand il y a été question du cas de Jonathan Drouin, puis du fait qu'il y avait énormément de pression pour les joueurs francophones d'être au Québec, etc. Puis l'attention, ou ce qu'ils appellent en anglais le scrutiny à l'endroit des joueurs québécois était particulièrement marquée, mais ce l'était pour tous les joueurs. Est-ce que, dans le fond, c'est pas ce qui arrive avec le développement des jeunes joueurs, comme Galchenyuk, comme Kotkaniemi, et peut-être éventuellement pour un gars comme Cole Caulfield, c'est pas un peu d'un autre angle, un peu une autre face de la même situation, c'est-à-dire que les projecteurs sont tellement braqués à Montréal sur cette équipe-là que c'est difficile de donner de l'air à ces jeunes joueurs-là pour qu'ils se développent aussi bien qu'ils pourraient le faire s'ils jouaient à Anaheim ou, je sais pas, ou n'importe où ailleurs, à Calgary ou en Floride, tu sais. Est-ce que, dans le fond, le marché, incluant les amateurs sur les médias sociaux, incluant les médias, etc., et la façon aussi de gérer de l'organisation ne rentre pas en ligne de compte puis fait en sorte que ça devient un peu plus étouffant pour les jeunes joueurs?
Ben, je dirais que tu sais, sur le point sur les joueurs francophones et la pression qui vient avec quand, quand tu joues pour le Canadien, ça, évidemment, c'est unique à Montréal. Ce, ce problème-là n'existe pas ailleurs. Il n'y a pas plus de pression sur un joueur qui vient de Calgary s'il joue pour les Flames. Oui, je pense que les partisans aimeraient ça qu'un gars, un gars de chez nous, un gars d'ici, un gars de la place ait du succès, mais c'est pas la même chose, évidemment. C'est, ça, c'est clair. L'aspect sur les jeunes joueurs, je pense que c'est pas nécessairement unique à Montréal. Je pense que beaucoup de marchés passionnés, t'as la même dynamique qui existe pour les jeunes joueurs. T'sais, je pense pas que... Tu sais, Elias Pettersson et Quinn Hughes, qui sont tous les deux, deux des joueurs qui sont pas signés encore comme, comme joueurs autonomes avec compensation en ce moment, si ça allait pas, si ça pas allait aussi bien que ça a été pour eux autres pendant leur contrat recru, là, ça aurait pu être difficile à Vancouver. T'sais, Vancouver peut être un marché aussi difficile que Montréal, sinon
ah, plus. Ouais.
Toronto, même affaire. Tu sais, le fait qu'Austin Matthews et Mitch Marner ont connu autant de succès individuel au cours de leurs deux, trois premières années, mais là, ça commence à frapper un peu. Là, après, après la défaite contre le Canadien, Mitch Marner, je pense pas qu'il a connu un été paisible, disons. C'est comme, c'est quand même... Les critiques sont fortes envers ces deux joueurs-là en ce moment. Alors, c'est un peu la même, c'est un peu la même chose. Alors, de ce sens-là, ce que je pense... Ce que le Canadien et les Maple Leafs et les Canucks, mais je ne sais pas ce que les autres équipes font. En fait, je ne sais même pas ce que le Canadien fait. Mais le Canadien devrait, s'il ne le fait pas déjà, trouver une façon de, pas encadrer, mais de former ces joueurs-là dans la gestion de cet environnement-là. T'sais, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et tu sais, quand tu penses à Galchenyuk, Kotkaniemi, même Caulfield qui a 20 ans maintenant, même Suzuki qui a 22 ans, même s'il a l'air d'un vétéran à chaque fois qu'il parle, c'est quand même un jeune homme. Là. T'sais, c'est comme, t'sais, t'sais, ton cerveau n'est même pas comme complètement développé à l'âge de 18 ans, là, si je ne me trompe pas. Là. C'est quand même, il y a beaucoup de changements qui se passent dans, dans les pensées d'un jeune homme, physiquement, émotionnellement, de l'âge de 18 à 23, 24. Alors, de se mettre dans un environnement de même qui est quand même intense, que tous tes actes sont, sont pas critiqués, mais discutés, analysés. C'est pas quelque chose que, qui est inné en, en quelqu'un d'être capable de gérer ça, d'être capable de dire « OK, c'est pas grave ce que tout le monde est en train de dire maintenant, mais quand t'es en train de tu sais, quand t'es trending sur Twitter ou sur Instagram ou quoi que ce soit, là, c'est quasiment impossible de l'ignorer. Là. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'organisation du Canadien. Et s'ils le font, ils doivent l'améliorer. De juste, tu sais, être capable d'enseigner à leurs jeunes joueurs comment gérer ça. Et premier, en fait, la première étape, ce serait de savoir comment est-ce qu'on devrait gérer cette situation-là avec nos jeunes parce que ça ne changera pas. L'environnement à Montréal ne va jamais changer. Puis, effectivement, le Canadien ne veut pas qu'il change parce que c'est ça le résultat d'avoir des partisans qui sont passionnés. Mais ils devraient être capables de démontrer ou ouais, de démontrer à leurs jeunes joueurs les étapes ou des techniques pour comment gérer ça et être capable de performer et être capable d'être juste bien émotionnellement dans leur propre tête parce que ça peut être beaucoup. Puis, tu sais, on ne sait pas exactement ce qui a forcé Jean Drouin à quitter l'équipe, là, mais c'était quelque chose de grave. Et là, on parle d'un jeune homme qui a 25 ans, tu sais, comme tantôt quand j'ai dit à 25, c'est plus facile. Là, c'est pas tout le temps plus facile
temps.
À 25 ans, c'est ça. Alors, ça, c'est quelque chose que je pense que les Canadiens doivent mettre beaucoup d'emphase dessus. C'est d'essayer d'apprendre à leurs joueurs comment gérer le marché. Et ça, c'est quelque chose que... Au lieu de juste dire que c'est hors de notre contrôle, puis c'est bon, c'est le passion des partisans, etc., accepte la réalité des choses, puis agis en fonction de ça. Puis c'est ça que j'ai pas vraiment vu de la part du Canadien depuis longtemps.
Non, ben écoute, peut-être qu'il y a des séminaires derrière des portes closes qui sont faits sur comment pour aider les joueurs à composer avec le fait qu'à un moment donné, ils doivent se préparer à ce qu'Arpin Basu va débarquer dans le vestiaire, va s'asseoir à côté d'eux, puis il va leur poser des questions. Fait que là, écoute, faut Préparez-vous à Bassou, là. On va vous expliquer.
Ouais. Ouais, ce ne serait pas la première fois qu'il dit préparez-vous à Bassou. Là,
je sais. Mais écoute, le bottom line dans tout ça, on a fait un bien étrange détour là, pour en venir finalement à la conclusion qu'un joueur qui était encore sans contrat, sans deuxième contrat, qui attendait une offre, était bien content de voir arriver celle des Hurricanes à Caroline et de sortir de Montréal. Donc, je pense qu'effectivement, en gros, là, ce que ça veut dire, c'est que le Canadien doit en tirer des leçons. Mais dans l'intervalle, écoute, il y a quand même, au strict plan hockey, là, avec le départ de Philippe Dano, là, on s'en allait dans une situation où, au plan hockey, il espérait que Kotkaniemi allait recevoir la chance et le vote de confiance qu'il attendait. Parce que, écoute, c'était clair qu'il allait devenir le deuxième centre de l'équipe en vue de cette saison. Là.
Mais pas nécessairement, Marc-Antoine. Pas nécessairement, parce que, non? Dans le fond, parce qu'on est rendu... Ça fait comme plus que 30 minutes qu'on est en train de parler, puis on n'a pas parlé du gars qui arrive de l'Arizona pour remplacer Jesperi Kotkaniemi, qui est Christian Dvorak. Et Bill Armstrong nous a révélé que la première fois que Marc Bergevin a démontré de l'intérêt en ce joueur-là, en tout cas récemment, c'était avant le repêchage ou juste avant le repêchage. Alors, avant que Philippe Dano quitte comme agent libre, mais je pense que Marc Bergevin était très au courant du fait qu'il allait quitter, mais aussi avant que l'offre hostile soit déposée sur la table de Jesperi Kotkaniemi. Alors, déjà, et on l'a entendu, Marc Bergevin, le 28 juillet, quand il a dit que dans un monde idéal, je trouverais un joueur de centre, un troisième joueur de centre qui ne fait pas plus que 5 millions de dollars, qui est un chiffre qui fait beaucoup de sens maintenant parce que Dvorak fait 4,45 millions de dollars. On sait maintenant que ça faisait quelques semaines qu'il parlait à l'Arizona concernant Dvorak. Alors, peut-être que dans la tête de Marc Bergevin, s'il était capable de transiger avec Arizona pour Christian Dvorak, ça serait Kotkaniemi le troisième centre de l'équipe. Là. C'est fort possible. Juste pour autre année, peut-être. T'sais. C'est comme ça. C'est pas le fin du monde non plus. Là.
Je comprends, mais penses-tu que le prix que le Canadien a payé, c'est-à-dire un choix de première ronde et un autre de troisième, deuxième en fait,
ouais.
il aurait été disposé à le payer si le Canadien n'avait pas perdu Kotkaniemi, parce que là...
Ben non, mais Marc-Antoine, c'est pas ça le point.
Quand même.
Ben c'est pas ça le point, là.
Non, regarde bien, c'est toujours des situations qui sont mouvantes. C'est-à-dire qu'au moment où est-ce que... Je comprends quand tu dis que ça date pas d'hier que Bergevin était intéressé à Dvorak. D'ailleurs, j'ai beaucoup de difficultés parce que ça devrait être Dvorak, là. Mais vu que c'est un Américain, on va dire Dvorak, puis ça va passer de travers.
Pierre Rudd va faire. Moi, j'ai très hâte de voir le premier match canadien que Pierre Rudd va... que Pierre Rudd va régler ça comme il faut. Là. C'est, ouais.
Alors, mais écoute, je comprends que ça date d'avant même. C'est une façon de parer au départ de Philippe Dano. Et je comprends. Et l'idée, quand Bergevin disait « dans un monde idéal », on aurait un autre joueur de centre, ça nous permettrait de continuer de faire une utilisation protégée de Kotkaniemi en vue de la saison prochaine. Je pense que ça, c'était son plan idéal. Sauf que il y a une raison pour laquelle cette transaction-là n'avait pas eu lieu encore. La question que je me pose par rapport à ça, c'est que si le Canadien n'avait pas perdu Kotkaniemi et n'avait donc pas hérité d'un autre choix de premier tour, est-ce qu'à ce point-ci, Bergevin aurait quand même été à l'aise de payer ce prix-là pour aller chercher Dvorak? Puis, honnêtement, je ne suis pas sûr. Tandis que là, il se retrouve dans une situation...
Il y avait un
impératif d'aller chercher un joueur de centre, puisque là, non seulement il a perdu Dano, mais il a perdu en plus Kotkaniemi. Mais en plus, là, il y avait un deuxième choix de première ronde. Fait que c'est sûr qu'il allait le monnayer d'une manière ou d'une autre pour aller chercher de l'aide immédiate. Ça, c'était écrit dans le ciel. Mais sauf que c'est pour ça que je te disais que est-ce qu'au point où on en est rendu là, son objectif d'aller chercher Dvorak avant l'offre hostile, est-ce que ça tenait encore? Je sais pas. On dirait que même si c'était à regret, même si c'était OK, on va essayer Kotkaniemi comme deuxième centre, c'était peut-être là leur premier choix, mais on dirait que ça s'enlignait pour être là où on en était rendu.
Oui, mais mon point, c'est le fait qu'il démontrait de l'intérêt à faire son acquisition avant même que... Tu sais, mon point, c'était seulement que tu disais que Kotkaniemi, il avait sa chance d'être le deuxième centre, c'était clair. Et je dis juste que c'était pas nécessairement si clair. Alors, quand tu fais la combinaison du fait que Marc Bergevin avait parlé à Bill Armstrong concernant Dvorak bien avant, tu sais, en mi-juillet, fin juillet, il sort devant nous, il dit très honnêtement qu'il pense à chaque jour si Kotkaniemi est prêt pour être le deuxième centre, que dans un monde idéal, il ne le serait pas, il serait encore protégé un peu, il y aurait quelqu'un qui jouerait derrière lui, disons, pour prendre les responsabilités difficiles. Alors, tu prends ces deux choses-là, je pense pas que tu peux dire, et le plus est important là-dedans, si tu es Jesperi Kotkaniemi, je pense pas que tu peux toi te le dire que, ah oh, oui, c'est clair, Philippe Deneau est plus là, je vais avoir ma chance comme deuxième centre. Il n'y a pas de doute. Il y avait beaucoup de doutes, parce que ouais. Marc Bergevin lui-même l'a dit qu'il y avait beaucoup de doutes. Ouais. Alors, c'est difficile. Et ce qui est correct, tu sais, honnêtement, je pense que tout le monde est d'accord que Jesperi Kotkaniemi n'est pas nécessairement, n'est pas démontré qu'il est prêt pour avoir un rôle comme ça. Il n'y a personne qui est contre cette idée-là. C'est vrai. C'est un fait. Mais l'important, je pense, pour l'avenir du Canadien, à mon avis, c'est comment est-ce que tu gères une situation comme ça? Comment est-ce que tu communiques avec un joueur sur cette situation-là? Comment est-ce que tu formes un plan pour une carrière d'un jeune joueur pour qu'il ne soit pas si tenté de prendre la première opportunité qu'il a pour quitter? C'est ça, c'est un peu ça la façon que je vois le big picture ici, là, mais je pense que on devrait aussi en discuter un peu sur le travail que Marc Bergevin a fait en allant chercher, tu sais, il est allé chercher Dvorak quand même, qui est quand même un bon joueur. Il est pas mauvais, c'est pas une super vedette. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à Montréal qui capotent un peu quand ils parlent de Dvorak comme étant quelqu'un qui ne l'est pas. Ce qu'il est, c'est un joueur qui est capable de jouer sur 200 pieds de la glace, il est capable de jouer... il est capable de remporter des mises en jeu, il est capable de jouer en jeu de puissance à une position où le Canadien avait vraiment personne. L'année passée, le bumper au milieu de l'enclave, il a marqué, je pense, c'est 12 ou 14 buts au cours des deux dernières années, plus ou moins en jouant à cette position-là. Alors, étant donné les circonstances, puis encore une fois, je pense que le dernier podcast, on a dit « Hey, tu te rappelles, Max Pacioretty, on pensait qu'il ne pouvait rien faire et il va sortir un lapin de son chapeau, mais je pense que c'est un peu ça qu'il a fait. » Étant donné les circonstances, tu peux pas vraiment dire que Marc Bergevin a mal géré la situation qui s'est présentée devant lui. Tu peux le critiquer un peu pour que la situation existait. Peut-être qu'il aurait pu l'éviter s'il était un peu plus proactif avec son joueur, mais comme tu as mentionné, il y a beaucoup de joueurs dans la position de Kotkaniemi qui n'ont pas encore des contrats. Mais étant donné la situation, je pense qu'il a très bien géré ça en allant chercher un joueur qui, à 25 ans, a quand même des bonnes années devant lui, un bon contrat, un bon montant, puis il vient combler un besoin criant chez le Canadien avec surtout le départ de Dano, mais avec éventuellement aussi le départ de Kotkaniemi.
Oui, effectivement. C'est drôle parce que, tu sais, on a l'habitude de la part de Bergevin d'avoir des transactions avec des noms qui nous prennent par surprise, tu sais, qui respectent pas nécessairement ce qui circulait dans les rumeurs. Tandis que je pense que j'ai rarement vu une transaction réalisée par Marc Bergevin où le joueur qui va chercher est celui qui circulait le plus dans les rumeurs. Et je pense que ça décrit à quel point ça relevait pratiquement de l'évidence que c'était le joueur dont ils avaient besoin.
Josh Anderson était l'autre.
Oui, exact. Ouais. C'est vrai.
Mais à part ça, pas grand-chose. C'est vrai.
C'est plutôt rare. Tandis que là, c'est comme selon ce que le Canadien était en mesure de se payer, ce qu'il avait à... les atouts qu'il avait à donner, ce dont il avait besoin, etc., puis les équipes qui étaient disposées à laisser partir un centre top 6, ben là, tout concordait. Moi, Dvorak, je trouve que c'est ça, il réinventera pas la roue, mais au moins, c'était le sujet de mon article samedi soir à ce sujet-là, c'est qu'il va apporter au moins un certain nombre d'acquis aux Canadiens. Le Canadien va savoir un peu plus à quoi s'en tenir de son joueur, parce que c'est un gars qui est un petit peu plus vieux, qui a un peu plus de millage, et il y a un petit peu plus de certitude autour de son jeu. C'est un gars qui... C'est un gars, tu disais qu'il joue bien sur 200 pieds. C'est pas un candidat au trophée Selkie, là. Sauf que c'est non. Un gars qui est... Une chose, par exemple, qui est claire, c'est que c'est un gars qui est habitué à jouer contre les meilleurs trios adverses, qui est habitué à jouer des minutes difficiles. Puis ça, je pense que chez le Canadien, d'avoir un gars qui est un peu plus expérimenté, puis que tu vas pouvoir envoyer dans n'importe quelle situation, contre n'importe quel trio, sachant qu'il ne se fera pas manger tout rond, c'est intéressant. Puis si tu as besoin d'avoir un travail défensif, un mandat défensif plus précis, je pense que le Canadien est tout à fait ouvert à élargir les responsabilités de Jake Evans. Ça, je pense qu'ils ont été assez clairs à cet effet-là. Fait que je pense qu'au plan défensif, tu peux avoir un genre de tandem entre Dvorak puis Evans pour aller remplir certaines assignations. Mais au moins, lui, tu sais, il joue sur 200 pieds, il gagne davantage de mise en jeu que Suzuki et Kotkaniemi. Son point fort sur les mises en jeu, c'est un avantage numérique, mais bon, c'est le cas de plusieurs joueurs de centre, ne serait-ce qu'à cause des règles de mise en jeu lors des unités spéciales. Mais quand même à 5 contre 5, c'est un gars qui se débrouille, qui est toujours au-dessus de 50%. Je pense que dans la saison 19-20, il était même à 55%. Ça, on arrive à des pourcentages qui sont intéressants. C'est un gars qui est peut-être davantage un tireur qu'un fabricant de jeu. C'est pas une machine de transition comme Philippe Dano, mais c'est un gars qui a beaucoup plus le compas dans l'œil pour terminer les jeux. Puis c'est peut-être pas un hasard si, par le passé, il a aussi été utilisé à l'aile. Parce que, tu sais, il y a une bonne gâchette. Puis tu mentionnais aussi le fait qu'il avait été utilisé comme bumper en avantage numérique. Là, c'est intéressant parce que le Canadien s'est vraiment donné les outils en attaque pour avoir deux bonnes unités. Parce que pendant longtemps, un des problèmes du Canadien en avantage numérique, c'est qu'il n'y avait aucun bumper dans son équipe. Puis là, il est allé en chercher un en Tyler Toffoli. Ça a fait une belle différence. Puis là, il y en a un deuxième. Fait que là, tu dis, OK, soit qu'on load notre première unité, puis on va chercher, on concentre tous nos efforts là-dedans, puis on va chercher une première unité qui va faire 1 minute 30. Mais là, tu peux... Tu as le choix entre Toffoli et Dvorak. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est dire, ben là... On pourrait envoyer Toffoli comme tireur sur la deuxième unité. On pourrait envoyer Suzuki sur la deuxième unité. Si tu as Hoffman, tu as Caulfield sur les cercles, tu as plusieurs outils maintenant, plusieurs tireurs qui font en sorte que plus que jamais, la menace en avantage numérique va s'éloigner de la ligne bleue, va s'approcher du filet. Puis ça, je trouve ça très, très intéressant. Puis Dvorak apporte une dimension qui ajoute à ça encore une fois.
Oui, puis effectivement, il va hériter la phrase qui a suivi Philippe Dano pendant tout son temps à Montréal, c'est que Philippe Dano, c'est un bon joueur de centre, mais on va savoir que le Canadien est vraiment bon quand Philippe Dano serait le troisième joueur de centre de cette équipe-là. Puis je pense que Dvorak, ça va être tout à fait la même chose. C'est un bon joueur, rien contre lui, mais comme deuxième joueur de centre, c'est poussé un peu. Il peut faire la job. Il va jamais être... Si tu regardes les équipes qui ont deux lignes d'attaque qui sont vraiment impressionnantes. Pour une équipe qui aspire à un championnat, oui, je trouve que il est limite comme deuxième joueur de centre. Il est très bon, là. Mais je pense que la phrase va demeurer vraie, que quand le Canadien est prêt à compétitionner pour une Coupe Stanley, c'est plus probable qu'il y aurait quelqu'un qui a déplacé Dvorak au troisième joueur de centre. Je pense que la même philosophie va tenir avec lui, sauf que le gars qui aurait pu devenir ce deuxième joueur de centre vient de partir. Alors, c'est un peu un problème, mais c'est un peu comme ça que je pense... Encore une fois, je vais être clair, Christian Dvorak, c'est un deuxième joueur de centre légitime dans la Ligue nationale de hockey. Ce que je dis, c'est que c'est pas nécessairement le premier gars auquel tu penserais pour une équipe qui aspire aux grands honneurs, que ça soit ton deuxième joueur de centre. Dans les circonstances, il est parfait. Honnêtement, il est parfait comme pour maintenant. Et je dirais même, à l'instant, le Canadien est meilleur aujourd'hui qui ne l'a été il y a une semaine quand l'offre d'asile a été déposée à Yesprican, ou même avant ça. Tu sais, c'est comme Christian Dvorak va mieux remplir le rôle que le Canadien envisage pour ce deuxième joueur de centre qu'Jesperi Kotkaniemi aurait pu le faire. Mais à long terme, moi, je dirais que moi, je suis assez confiant de dire que Jesperi Kotkaniemi va devenir un joueur qui va être meilleur que Christian Dvorak éventuellement. Alors, c'est ça l'échange qu'ils font. Ce qui arrive en ce moment, c'est que tu t'améliores tout de suite à court terme, mais à long terme, ça risque de paraître mal pour le Canadien. Mais encore une fois, la dernière fois qu'on a utilisé cette phrase-là, c'était l'échange de Shea Weber contre Piquet Subban. Tout le monde pensait que les Canadiens gagnaient l'échange au court terme, puis à long terme, c'est Nashville qui allait le gagner, puis c'était pas le cas du tout. Alors, on verra ce qui va arriver, là. Mais pour l'instant, c'est ça l'impression que j'ai.
Oui, absolument. Ben écoute, là, tu sais, Dvorak est rendu à 25 ans, c'est sûr que son potentiel d'amélioration, il approche de son plafond. Là, c'est sûr que, tu sais, je pense que n'importe quel joueur a le droit à au moins un changement d'équipe pour pouvoir montrer qu'il est autre chose que ce qu'il a démontré jusqu'à maintenant. Puis ça, je pense que c'est vrai à peu près à n'importe quel âge, du moins jusqu'à tard dans la vingtaine. Là, il arrive dans un nouveau mix, nouvel environnement où il va avoir des bons ailiers avec qui jouer. Il a eu une bonne saison avec Taylor Hall et Connor Garland. Ça allait très, très bien de ce côté-là. Mais c'est un gars qui a besoin d'avoir des bons ailiers pour générer quelque chose. Je pense qu'il va être servi à Montréal. Il va, peu importe les combinaisons, je pense que ça va être assez intéressant. Mais c'est sûr que son potentiel d'amélioration à ce stade-ci n'est pas le même que celui de Kotkaniemi. Puis, tu sais, il y a des chances là, que d'ici 3 ans, il n'y a plus vraiment photo entre les deux joueurs, tu sais. Mm-hmm. En même temps, tu sais, le Canadien doit espérer que Dvorak soit capable de plus que les totaux qu'il a accumulés jusqu'à maintenant. Puis, ben, il y a de bonnes chances qu'il se croit capable d'amener Dvorak à ce niveau-là, plus qu'il avait confiance de voir atteindre Kotkaniemi le même palier. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Ouais, 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 non. Non, c'est sûr, mais bon. Je dirais que Marc Bergevin, quand même, il mérite du crédit pour avoir géré la situation puis pour avoir allé chercher Dvorak. Puis ça a l'air mm-hmm. qu'il n'y avait pas un DG de la Ligue nationale qui n'a pas reçu plusieurs appels de Marc Bergevin, de la part de Marc Bergevin cette semaine. Alors, bravo là-dessus. Je pense que dans les circonstances, il a bien fait. Un Thomas Hertl avec une prolongation de contrat serait peut-être un peu mieux, mais peut-être qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. C'était peut-être pas un joueur qui allait juste coûter des choix au repêchage. Et honnêtement, donner un choix au repêchage en 2024, c'est vraiment quelque chose de spécial. Hein. C'est quand même bien fait, ça. Ça va être le problème de quelqu'un d'autre. ce deuxième choix en 2024, là, Marc Bergevin oui. est comme « Ouais, ouais, prends-le. Là. Tu veux-tu un en 2026 aussi? Je peux l'ajouter. » Mais en tout cas, il y a eu le joueur. Quand il n'y avait pas Il y avait aucun tu sais aucun bargaining power, tu sais, comme on dit en anglais, là, mais il était peinturé dans un coin, puis il a réussi à s'en sortir avec un légitime joueur de la Ligue nationale qui est un calibre d'un deuxième centre. Alors bravo à Marc Bergevin, bravo à Jesperi Kotkaniemi. Il est riche, il va gagner 6,1 millions de dollars et 15 dollars et 20 dollars en bonus de signature cette année.
Il a dit qu'il allait donner le 20$ à sa mère en cadeau de Noël.
Oui, ou il allait l'utiliser pour acheter des cadeaux de Noël, je ne sais pas. Ouais. C'était pas trop clair, mais en tout cas, c'était sa seule blague de toute son disponibilité média de dimanche. Bravo là-dessus aussi. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis je pense que, encore une fois, je dirais que, à mon avis, moi, ce que je prends de tout ce qui s'est passé cette semaine, c'est que le Canadien devrait se demander des questions concernant les jeunes joueurs qui sont encore là, puis s'assurer que la même chose ne se reproduit pas l'année prochaine ou l'année d'après. Là.
Ouais, ben peut-être que la question autour, je sais que c'est un petit peu revenir sur l'histoire ancienne, mais il y avait été beaucoup de questions du fait que Kotkaniemi avait été accédé à la Ligue nationale à l'âge de 18 ans dès sa première année d'admissibilité, comme Galchenyuk également. Puis, est-ce que ça n'a pas été précipité? Puis, est-ce que ça avait été fait pour les bonnes raisons? Souvent, une équipe regarde un joueur recrue, puis dit, ben là, c'est le fun, on peut avoir 3 ans d'un gars qui nous coûte pas loin du salaire minimum, c'est pratique pour notre plafond salarial, etc. Ça nous donne plus de flexibilité, mais en même temps, est-ce que c'est la meilleure... Si tu fais graduer ton jeune joueur trop vite, ben ces 3 années-là ne sont pas vraiment maximisées, parce que ce n'est pas nécessairement des années où il va donner ce qu'il serait le plus capable de donner par rapport à si tu le laisses mûrir pendant une saison, 2 saisons de plus ailleurs. Je pense que Suzuki, il est retourné dans le junior même après son acquisition par le Canadien. Cole Caulfield a eu 2 années à l'université. Je pense que ça a fait une différence. C'est intéressant. Alors, peut-être que il y a... Tu sais, tout à l'heure, tu parlais du fait que les joueurs qui sont encore des adolescents, quand ils arrivent dans un marché comme Montréal, ça peut être gros, ça peut être intimidant, puis pas facile à gérer. Mais peut-être que c'est en soi aussi une bonne raison de dire, c'est vous, peut-être que au lieu de précipiter les choses, essayer de prendre notre temps, d'essayer d'éviter de tomber dans le panneau, de céder à la tentation, puis de prendre un pas de recul. En même temps, en bonnie, ça va permettre aux joueurs de prendre un peu plus de maturité, puis il va faire en sorte que entre les deux oreilles, le jour où il va être confronté à cet environnement-là, bien, il va être encore mieux équipé puis mieux préparé. Je pense que c'est le genre de choses aussi qui peut faire partie de la réflexion.
Oui, puis aussi pas permettre 2 semaines de camp d'entraînement contre des formations qui sont comme à moitié pleines de joueurs de la Ligue nationale à déterminer des décisions qui sont aussi importantes que celui-là. Ce serait ça l'autre réflexion que moi-même je fais, parce que je me rappelle le camp d'entraînement de Jesperi Kotkaniemi, j'étais convaincu qu'il méritait d'être sur l'équipe. Là, c'est honnêtement la façon juste basé sur la façon dont il a joué. Mm-hmm. Comparé aux autres joueurs, même les joueurs établis sur l'équipe. Je ne voyais aucune raison pourquoi le Canadien ne le garderait pas, puis effectivement, c'est ça qu'ils ont fait, mais je pense, en voyant tout ce qui s'est passé, en regardant tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, l'autre réflexion serait que ce qu'on voit au camp d'entraînement, c'est pas un grand échantillon, et deuxièmement, c'est pas la réalité, là. C'est pas la réalité de la Ligue nationale. Alors peut-être ne pas permettre ces 2 semaines-là ou 3 semaines-là déterminer des décisions qui devraient avoir beaucoup plus de facteurs inclus que 4 ou 5 bonnes matchs pré-saison. Là. C'est vraiment ça aussi que je retiens de tout ce parcours-là de 3 ans de Jesperi Kotkaniemi à Montréal.
Ah, puis ça date pas d'hier, cette histoire-là, parce que rappelons-nous de Guillaume Latendresse, l'engouement au camp d'entraînement autour de Guillaume Latendresse, c'est parce que c'est un environnement de travail où est-ce que les vétérans se donnent pas tous à 100% non plus, tandis que les jeunes puis les gars qui cognent à la porte, eux, ils se donnent à fond parce qu'ils veulent mériter leur poste. Puis c'est un environnement aussi de jeu où tu peux montrer tes skills, t'sais. Puis si tes atouts à l'état brut sont sûrs d'un 3e choix au repêchage, ben ça a des chances que ça puisse ressortir puis que ça fasse écarquiller des yeux. Voici ce dont il est capable. Ben oui, c'est pour ça qu'il a été repêché. Mais est-ce que ça nous en dit vraiment sur son endurance, sur le fait d'être capable de maintenir pendant une longue saison son niveau de jeu, sa compréhension des systèmes de jeu, etc. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte puis que tu ne peux pas déterminer sur la base d'un camp d'entraînement. T'sais. Fait que, mais on est comme des poissons rouges, puis on va continuer de tomber dans le panneau parce qu'on a le goût des belles histoires, on a le goût de voir, on a le goût d'être excité, puis de s'emballer, puis de dire, ouais, cool, il y a un nouveau jeune joueur, puis on le veut, puis let's go, parce que c'est le nouveau, ça pop, c'est le fun. Mais c'est ça, il faut apprendre les leçons du passé, même si c'est quelque chose qui, dans l'histoire, notre civilisation a de la difficulté à faire.
Ouais. Non, je suis entièrement d'accord parce que je suis le premier à commencer à réclamer que telle recrue fasse l'équipe ou telle recrue joue ou whatever. C'est comme, je me rappelle, c'est arrivé avec Cole Caulfield juste cette mm-hmm. saison. C'est comme, c'était ridicule le fait qu'il jouait pas en série, en saison régulière. Alors oui, je pense que ça, c'est une leçon à retenir aussi. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. C'était toute une semaine, c'est toute une fin de semaine. On verra ce que si Marc Bergevin est terminé avant, tu sais, le camp d'entraînement s'en vient dans une couple de semaines, il y a encore du temps. Améliorer son équipe. Il n'y a pas une tonne d'argent avec lequel travailler, mais je pense que ça ne me surprendrait pas vraiment s'il y avait quelque chose d'autre à faire avant le début du camp qui devrait commencer la semaine du...
Quelque c'est part, le 22.
Je pense que c'est le 22 septembre, c'est ça. Alors,
ouais. Alors camp des recrues à partir du 15, tournoi de golf le 21, puis début du camp principal le 22.
Alors nous, notre podcast va revenir à l'horaire normal, une fois par semaine, sur une journée précise qu'on n'a pas encore déterminée, mais on va avoir un podcast régulier dès la semaine du 20 septembre, la semaine du début du camp d'entraînement. On va déterminer quel jour est le meilleur jour pour le faire, ce qu'on n'a pas fait encore, mais dès cette semaine-là, nos auditeurs peuvent s'attendre à avoir un épisode par semaine pendant toute la saison. Au minimum, si on a besoin d'autres, on va certainement le faire. Mais d'ici là, on verra ce qu'on va faire. Mais moi, je pense que Marc Bergevin va faire quelque chose d'autre avant cette semaine-là.
Moi, je m'attends à une invitation, un PTO, une invitation pour un essai professionnel au camp d'entraînement. Je soumets deux noms complètement gratuits puis out of the blue, là. Mais moi, je te dirais que Jason Demers. Puis, tiens, rester en Arizona, Jason Demers, puis un autre ancien des Coyotes, Brad Richardson, un autre joueur de centre. Fait que c'est ça, un défenseur droitier, un joueur de centre, c'est ajouter un petit peu de profondeur. Ça, moi, je verrais ça. Parce qu'il y a des gars qui ne sont pas signés, puis qui, à mon avis, mériteraient des contrats en bonne et due forme. Je pense que c'était Tyler Bozak en est un. Il y en a qui, Sami Vatanen en est un autre. Ouais. Mais des PTO, moi, c'est à ça que je m'attends du Canadien.
OK.
On verra.
On verra.
Ah oui. On s'amuse. All right. Hey, merci tout le monde d'avoir été des nôtres pour cet autre épisode. Puis comme vous dit Arpin, ben on va reprendre la régularité très bientôt. Alors, d'ici ce temps-là, ben, on va aller manger des All Brand. Merci tout le monde et merci Arpin. Puis à la prochaine.
C'est bon ça. Ça, c'est bon. Bye-bye tout le monde.